Aujourd'hui, ce que je veux montrer, c'est que nous avons un Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a accompli beaucoup de choses. Et quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous avons la capacité, nous trouvons en lui les ressources pour faire face à ce que nous vivons. C'est un point, c'est un centre d'intérêt pour moi depuis le début de ma vie chrétienne. C'est de chercher à comprendre, à m'approprier l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, dans toutes circonstances que je vis, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait qui me permette de m'en sortir, en tous les cas, qui permette d'atténuer ce que je suis en train de vivre. Et très souvent, on évoque la croix, c'est vrai, mais si dans toute circonstance on invoque simplement la croix, je crois que c'est insuffisant parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli des choses. Au cours de sa vie, avant d'aboutir à la croix, il a fait des choses pour nous dans ce qu'il a accompli sur terre. Il a fait des choses pour nous dans sa souffrance, sa passion. Et ça, il faut en être conscient et savoir comment s'approprier cela. Il a fait des choses pour nous par sa mort, sa crucifixion. Il a fait des choses pour nous par sa résurrection. Il a fait des choses pour nous par son ascension. Donc quand on s'approprie, quand on voit tous les détails de cela, ça nous permet d'avoir une vie chrétienne, comment dire, sereine, joyeuse aussi. Donc c'est ce que je veux montrer dans cet enseignement, dans cette prédication, même si ça permet également de voir comment en s'appropriant de cela, on arrive à régler des problèmes concrets. Seigneur, je te prie de m'aider par ton Saint-Esprit à être un témoin véridique pour toi et ainsi permettre que tu délivres tous ceux qui sont à l'écoute. J'invoque ton sang afin qu'il purifie ma conscience des œuvres mortes, qu'il purifie ma langue, qu'il purifie ma bouche, afin que ce que je dis vienne uniquement de toi et que tu élimines tout ce que j'avais prévu de dire qui ne vienne pas de toi, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors le titre de mon enseignement, il est un peu polémique. Il ferait bondir certains. Mais je ne suis pas dans la polémique, je m'adresse à des chrétiens. C'est d'abord les destinataires de mon message. Donc le titre c'est « Christ a aboli l'esclavage ». Alors si on le voit simplement d'un point de vue chrétien, bon, j'élimine le cas de Romains 6 où il abolit l'esclavage du péché. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Il a aboli l'esclavage de ceux qui ont été faits esclaves ou ont l'impression d'être faits esclaves. Il a aboli l'esclavage de ceux qui se sont faits esclaves ou qui se font esclaves. Donc ça, c'est le menu. J'espère qu'il sera appétissant. Et à la fin, dans la troisième partie, je montre que dans la vie chrétienne, André dit souvent il n'y a pas de neutralité. Je dirais que... Alors, cette troisième partie m'est venue quand je préparais le message, je n'y avais pas du tout pensé. C'est qu'on ne peut pas, on peut pas être... On est soit fils, soit esclave, en toutes circonstances. Soit on a un comportement de fils ou de fille, soit on a un comportement d'esclave. Et donc, le Seigneur Jésus a accompli des choses pour nous. Et dans ce qu'il a fait, il a fait ce qu'on appelle un échange. Il a fait une substitution. Il est important que nous en soyons conscients et dans ce que je vais montrer, c'est toujours ça. Hein, il a fait les choses à notre place, c'est à nous de saisir cela et d'être victorieux. Alors je vais lire un passage qu'on partage souvent. Lorsqu'il y a des offrandes, c'est en 2 Corinthiens chapitre 8. Il est dit au verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ était riche, mais il s'est fait pauvre. En fait, il prenait notre pauvreté, afin que nous devenions riches. Donc il nous a transmis sa richesse. Et donc tout au long de cette prédication, c'est ce principe. Il faut que je prenne ce que le Seigneur Jésus a vécu à ma place, il a pris ce que je vis, et il m'a donné ce qu'il a. Alors, donc, Christ a aboli l'esclavage de ceux qui ont été faits esclaves. Et évidemment, on pense à cette dernière phase d'esclavage, puisqu'il y a eu beaucoup de peuples qui ont été en esclavage, et ceux qui l'ont été en dernier, qui a beaucoup marqué, c'est les Noirs. Et mais on me dira, aujourd'hui, les Noirs ne sont plus en esclavage, ou en tous les cas, les descendants d'anciens esclaves ne le sont plus. Mais ils se fouffent qu'ils continuent à le vivre cet esclavage par procuration. Ils vivent cet esclavage en gardant toujours en souvenir cela. Ça les rend agressifs, ça les rend résignés. Ils souffrent de cette blessure, c'est une grande blessure. Et je ne suis pas en train de faire de donner des leçons. Moi-même, j'en ai beaucoup souffert. Et ma première libération, quand j'ai connu le Seigneur, c'est justement parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, mais pourquoi les Noirs doivent toujours adopter les religions des autres, en particulier l'islam et le christianisme. Et donc, mon anti-occidentalisme m'avait amené à rejeter le christianisme. Et jusqu'à ce qu'en lisant la Bible, je me rende compte que le christianisme n'était pas d'origine occidentale. Je reconnais que ça a été un facteur décisif pour moi pour accepter le Seigneur. Donc, j'ai souffert de cela, et pas plus tard qu'il y a deux mois, un échange avec une croyante m'a permis je pensais être complètement libéré. Il y a deux mois, une discussion avec une sœur m'a permis de me rendre compte après qu'il y avait encore quelques séquelles. Et dans ma vie de prière, le Seigneur m'a aidé à m'en rendre compte et à m'en débarrasser. Donc, c'est quelque chose de concret. Je ne suis pas en train de présenter une méthode, une technique. Non, il s'agit de quelque chose de vrai, s'approprier, accepter ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous et considérer que c'est une arme pour vivre. Donc, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures physiques, morales. Alors, Ésaïe 53, et là, vous voyez que le Seigneur Jésus a vécu beaucoup de choses. Ésaïe 53, Ésaïe 53 nous dit, il s'est élevé devant lui, donc là je suis au verset 2, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Donc ils ont souffert du mépris, ils ont souffert du manque de considération. Ça, c'est un fait historique. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il y en a qui ont trouvé une justification biblique à cela. Considéré comme une plaie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il a été humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc on voit ici que Le Seigneur Jésus a vécu des souffrances atroces. Et les anciens, les esclaves, ont vécu ça. Et après cet échange avec cette croyante, à un moment donné, le Seigneur m'a conduit à lire le psaume 89. Et vraiment, j'avais l'impression de vivre ce que ces personnes ont vécu à ce moment-là. Donc, psaume 89. Je ne suis pas en train de susciter de la culpabilité ou de la compassion. Non. Il faut être froid dans l'analyse. Psaume 89. Au verset 39, et là, il s'adressait au Seigneur, c'est du Seigneur qu'on parle dans ce psaume. Et il dit, au verset 39, « Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton Messie. Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur. Tu as profané à terre son diadème. » Ils ont vécu, les Noirs. « Tu as fait des brèches à toutes ses clôtures. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants l'ont dépouillé. » Il est le déshonneur de ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée. Tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à son éclat. Tu as jeté son trône à terre. Il y en a qui... C'est ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, c'est réel. Mais ici, ça m'a, comment dire, j'avais l'impression de vivre ce qu'ils ont vécu par le passé. Mais ce qui m'a donné de l'espérance, et là c'est très subjectif, et qui, comment dire, me donne une conviction forte qu'il y a cette délivrance dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce passage s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu ces situations-là. Alors concrètement, comment faire ? Comment faire pour ne plus souffrir? Il y a des gens qui souffrent encore dans leur chair. Et ça entraîne des réactions diverses. Et donc, c'est de se rendre compte que le Seigneur Jésus a vécu ce que vos ancêtres ont vécu. Et le Seigneur Jésus maintenant dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, concrètement, Seigneur, moi qui souffre de tout ça, je ne cache pas ce dont je souffre. Je ne cache pas ces blessures. Et le Seigneur dit, venez. Alors, je vais citer une suite, mais l'ordre, je vais dire, on ne peut pas. Ça dépend de chacun, hein, selon le contexte. Seigneur, voilà ce que je vis. Voilà ce que je continue de souffrir dans ma chair. Voilà ce que je ressens. Mais tu as vécu tout ça à la croix, Seigneur. Tu as vécu tout ça. Ça, c'était pas la croix, ça, c'était avant. En ta passion. Et tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens te transmettre toute cette souffrance, toute cette pesanteur. Tu as dit, venez à moi. Alors, je viens te transférer tout cela. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, Seigneur, tu l'as vécu. Alors, je viens me décharger sur toi de tout ce que j'ai vécu. Ça va s'appliquer aussi à toute forme de blessure qu'on peut ressentir. Donc, ça, c'est un point. Deuxièmement, André l'a cité tout à l'heure, quand le Seigneur dit en 1 Pierre 1, verset 18, c'est pas son sang précieux qu'il nous a racheté de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc, en tant que descendant d'esclaves, ancien d'esclaves, ou noir qui s'associe à cette souffrance, le Seigneur dit quoi ? Il nous a racheté par son sang précieux de la vaine manière de vivre. Une manière de vivre de cette personne. Donc j'admets, le Seigneur l'a fait. C'est un acte qu'il a accompli. Alors Seigneur, tu m'as racheté de cela. Alors maintenant il s'agit de l'accepter. Et maintenant que je l'accepte, Il faut que je brise. Seigneur, je brise au nom de Jésus-Christ. Hein, toute, comment dire, toute souffrance héréditaire de ce que mes pères ont vécu. Donc, il faut s'approprier de cela. Je le proclame. Et je brise donc tout héritage. Tout ce qui est héréditaire. Déjà à mon niveau, et ensuite pour mes enfants, mes descendants. Donc, voilà. Une étape. Alors, qu'est-ce qui... J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur a souffert de cela. Mais le Seigneur a été fait esclave. Je dis, il faut en être conscient. Le Seigneur a été fait esclave. On le voit, je vais citer deux versets par rapport à ça. Matthieu 26, versets 14 à 15. Il est dit, « Alors l'un des douze, appelé Judas, Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. » Et le deuxième passage, c'est en Exode. Exode chapitre 21. Je commence au verset 28. Lorsqu'un bœuf donnera un coup de corne à un homme ou une femme qui en meurt, le bœuf sera lapidé, sa viande ne sera pas mangée et le propriétaire du bœuf sera acquitté. Mais si le bœuf était auparavant sujet à donner des coups de corne et qu'on en ait averti le propriétaire sans qu'il le surveille, le bœuf sera lapidé dans le cas où il ferait mourir un homme ou une femme et son propriétaire aussi sera puni de mort. Verset 30, si on impose au propriétaire une indemnité pour rançon de sa vie, il donnera tout ce qui lui sera imposé. Si le bœuf frappe un fils ou une fille, l'on agira à son égard selon ce principe. Et au verset 32, c'est le verset le plus important. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave. Et le bœuf sera lapidé. Donc, un esclave vaut 30 sicles. Et le Seigneur, donc quand Judas est allé voir les principaux sacrificateurs, ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Donc, le Seigneur a été fait esclave. Donc, il faut en être conscient. Du fait qu'il a été fait esclave, il peut donc libérer tous ceux qui ont été faits esclaves ou qui ont l'impression d'être faits esclaves. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on s'approprie ce que le Seigneur a fait par son sang précieux qui nous a rachetés de les vaines manières de vivre de nos pères. L'autre étape, toujours une appropriation de ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est en 2 Corinthiens chapitre 5. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous citons beaucoup, mais il faut se l'approprier. 2 Corinthiens 5, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, comment le Seigneur a fait de nous une nouvelle créature? Par sa résurrection. Il y a donc cette semence qui fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On dit que le vieil homme, tout ce que nous avons hérité de notre nature adamique a été crucifié. Donc, si quelqu'un a été fait esclave... Mais le Seigneur, et qu'il croit au Seigneur Jésus, c'est pour ça que j'ai dit, je m'adresse d'abord à des chrétiens. Donc, il est une nouvelle créature. Il faut qu'il en soit conscient. Et ensuite, il est dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, ça pose un problème d'identité. Ça, c'est important, parce que si on proclame simplement et puis qu'on est trop attaché à... Alors ça me fait penser à ce qu'a vécu Haïti. Haïti, dans sa libération des troupes de Napoléon, quand vous suivez les reportages là-dessus, on vous dit que cette libération a été initiée par une prêtresse vaudou. Et donc, ça, il y a des implications dans la culture. Ça, c'est ma conviction. Je me trompe peut-être. Vous voyez que Haïti souffre énormément. Il y a pas mal de catastrophes. Ma conviction est qu'il y a ce problème originel. Alors donc, si on est haïtien, par exemple, c'est un exemple, hein, si on est haïtien et qu'on s'attache à cette culture vaudou, je veux dire qu'on nie son identité en Christ. Hein. C'est une façon de nier son identité en Christ. Donc l'identité est importante. On a une nouvelle identité, celle qui nous est conférée par l'action du Seigneur Jésus-Christ. Et donc si on proclame ça et en même temps on est attaché farouchement à ce qu'on a de sa propre culture, il y a un problème. Dieu dit que les coutumes des peuples sont vanité. Tout peuple, quel qu'il soit, a quelque chose dans sa culture qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc il faut s'en débarrasser. Culture, c'est l'application du culte dans la vie quotidienne. Donc, exprimer fortement cette nouvelle identité en Christ. Donc, ça fait partie de ce que le Seigneur a fait pour nous et dont il faut se décharger. Et à ce. Alors, une de mes filles me disait, papa, on avait regardé un reportage sur l'esclavage, elle me disait, dans les chants, les esclaves chantaient du gospel, parce qu'on leur avait dit que. Qu'ils étaient faits pour ça. Et qu'en croyant, ça les délivrerait. Mais je pense que c'était de véritables. Ils avaient compris. Ils avaient véritablement compris. La nouvelle identité qu'ils avaient, même trimant dans les champs, ils chantaient la gloire du Seigneur. Et je trouve vraiment qu'ils avaient compris leur identité, même si en apparence ce n'était pas le cas. Et je m'appuie pour ça sur ce que dit le Seigneur à 1 Corinthiens, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 7. En Corinthiens chapitre 7, il est dit, au verset 21, « As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Verset 22, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Seigneur. » Donc, voilà les gens qui étaient en esclavage, mais ils avaient compris leur identité en Christ. Donc c'est à ça que tous ceux qui sont... Alors là, je parle de ceux qui ont été faits esclaves, donc il y a de la blessure. Et ça aussi, c'est valable pour ceux qui ont l'impression d'être faits esclaves. Ils peuvent aussi s'approprier ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. Et... maintenant, le Seigneur donc, n'a pas fait que... Donc là, maintenant, je généralise, j'aborde une deuxième partie qui est générale à beaucoup de personnes. Christ a aboli l'esclavage de ceux qui se sont faits esclaves. Et dans cette partie, je veux montrer aussi que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait esclave. Vous voyez ? Il a été fait esclave, mais il s'est aussi fait esclave. Pour sauver ceux qui se font esclaves. Donc, pour le voir, on va aller en Philippiens 2. Alors, ça aussi, c'est un passage qu'on cite beaucoup. Philippiens 2. Je vois même. Au verset 6-5, il est dit, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alors, certaines Bibles mettent en prenant la condition de serviteur. Dans les textes originaux, il est dit esclave, c'est le mot doulos. Hein. Donc, quand on dit esclave, quand on dit serviteur, ça atténue un peu ce qui est dit dans les textes originaux. Donc il est dit, dans ma Bible, il est mis, donc, et dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait esclave. Et donc ici, j'affirme ce que dit la parole, qu'il s'est fait esclave et il a libéré ceux qui se font esclaves. Hébreux 2, verset 15. Hébreux 2, verset 15. Je commence au verset 14 pour le contexte. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, entendu, quand il a pris cette condition, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Donc vous voyez que ici, il y a des gens qui se mettent dans l'esclavage par crainte. Ici, il est dit crainte de la mort. Mais en Romains 8, au verset 15, il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. La servitude, c'est un synonyme d'esclavage. Puisque esclavage, ça vient de slave, puisque avant que les Noirs soient en esclavage, beaucoup d'esclaves étaient des slaves. Des slaves, hein, ce qui a donné esclave. Mais servitude vient du latin, du mot latin qui signifie esclave. Donc vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, dans la crainte. Vous voyez ? Donc ici, on voit que la crainte et l'esclavage sont liés. Donc, quand il y a des formes de crainte, de peur, qui induisent l'esclavage. Et donc, c'est cette forme que le Seigneur a réglée. Alors maintenant, vous avez plusieurs situations où les gens se rendent esclaves par peur. Peur de la solitude, on se rend esclave d'un homme ou d'une femme. Peur affective, peur de perdre l'affection, par exemple, des enfants, on se rend esclave des enfants. Peur de l'aisance. De perdre l'aisance matérielle, on peut se rendre esclave de son père et de sa mère et mettre son couple en péril. Hein, puisque il y a cette tentation, dans ce cas, de dicter la vie du couple. Donc on est esclave des parents pour ça. On peut être dans l'esclavage parce qu'on a peur de perdre son travail en ces moments difficiles. On peut être esclave parce qu'on a, on a peur de la mort. Vous voyez, je me souviens un moment quand je disais que je venais à l'église, quelqu'un m'a dit, mais tu prends ce risque de venir à l'église dans cette situation? Bon, c'est vrai qu'il y a eu le cas de l'église d'Alsace, qui fait que simplement le fait de se rendre en l'église, ça induit la peur. Donc la peur de tomber malade, ça rend aussi esclave. La peur du qu'en dira-t-on? Donc on préfère subir des choses. Là, on est doublement esclave, parce qu'on est esclave du regard des autres. Parce qu'on a peur du regard des autres, on est esclave d'une situation, esclave de quelqu'un. J'ai été confronté à ce genre de situation. Comment je l'ai réglé en me disant, mais je ne suis pas un être spécial. Ça peut aussi m'arriver. Donc si ça m'arrive, et alors, si les gens sont au courant, et alors, ce qui est important, c'est le regard du Seigneur. Et de ce point de vue, l'apôtre Paul, il est extraordinaire. En 2 Corinthiens 12, quand il parle de ce moment où il a été ravi en esprit, il dit, si je raconte cela, je ne serai pas un insensé, car je dis la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon égard une opinion autre que ce qu'il voit en moi et ce qu'il entend de moi. Et donc, vraiment, si je pouvais atteindre ce degré de liberté de l'apôtre Paul, ce serait extraordinaire. Ils s'en fichent complètement. de ce que les gens peuvent penser de lui. Il ne cherche même pas, vous savez, il y a cette tendance naturelle, quand on vous considère comme faible, vous voulez montrer que vous n'êtes pas faible. Mais l'apôtre Paul, il s'en fiche. Afin que personne n'ait de moi une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Donc on voit quelqu'un qui est totalement libre. Et de nos jours, avec le Covid, qui accentue cette peur, il y a ce qu'on appelle, il y a une discipline qu'on appelle la collapsologie. Ça vient de collapse, en anglais, qui signifie effondrement. Cette théorie qui dit que le monde est en risque d'effondrement. Et un ancien ministre, docteur en mathématiques, qui en est un adepte, et ces gens, ils se réfugient dans des abris, enfin j'appelle ça des abris, et ça prend de l'ampleur avec le Covid, je veux dire, moi je dis le Covid, hein, même si on a l'OMS et l'Académie française ont estimé qu'il faut dire la Covid-19, et ça a accentué cela, c'est-à-dire que le monde va à l'effondrement. Et ce qui peut être... Et l'une de mes guérisons, en tous les cas, c'est la guérison de... J'avais cette crise existentielle. Ça, c'est la deuxième guérison pour moi quand j'ai accepté le Seigneur. Parce que j'avais cette conviction que le monde allait à l'effondrement. Mais quand j'ai lu la parole, j'ai suivi ce cours biblique, j'ai compris quel était ce que le Seigneur avait prévu pour moi, et ce qu'il avait prévu du monde, j'en ai été complètement libéré. Et aujourd'hui, je veux dire, quel que soit le catastrophisme qu'on peut présenter sur l'évolution du monde, ça ne me touche pas du tout, parce que je sais, je crois ce que Dieu a dit. Il arrivera un temps où cette terre et ces cieux disparaîtront et il en créera d'autres. Donc, il n'est pas possible que le monde actuels disparaissent, bien entendu, de façon logique. On peut comprendre de façon logique et déductive, on peut considérer qu'effectivement la fin sera la destruction. Mais non. Quoi qu'il arrive, Dieu préservera le monde jusqu'au terme qu'il a prévu. Donc, bien être conscient de ce que le Seigneur Jésus a fait, et sont libérés. Donc ici, être conscient que par sa mort, le Seigneur m'a libéré. Il a vaincu celui qui avait le pouvoir sur la mort. Et la Bible dit qu'il a pris la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Ce dont je suis conscient, c'est que peu importe ce qui m'arrive, si le Seigneur dit que je ne meurs pas, je ne meurs pas. Mais peu importe les conditions dans lesquelles je suis, les meilleures conditions sanitaires possibles, les meilleures conditions de santé, de précaution possibles, si le Seigneur dit, mon gars, c'est fini pour toi, c'est fini. Parce qu'il a la clé de la mort et la clé du séjour des morts. De la même façon, en Romains 8, 15, il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Donc, si je me laisse aller à ça, je suis esclave. Oh, le Seigneur me dit, je n'ai pas reçu. La suite dit, mais un esprit d'adoption. Les textes originaux disent adoption filiale. Donc vraiment le fils. Donc on vient de voir que le Seigneur, il libère ceux qui ont été faits esclaves, ou ceux qui pensent qu'on les fait esclaves. Il libère ceux qui se font esclaves. Et dans cette troisième partie, où le Seigneur montre qu'on est soit fils, soit esclave. En Galates chapitre 4, verset 6, Galates chapitre 4. Ah, je suis Éphésiens. Et il a dit, et parce que vous êtes fils, j'ajouterai des filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, fille. Si tu es fils, si tu es fille, tu es aussi héritier, héritière grâce à Dieu. Donc tu n'es plus esclave, tu es fils ou fille. Donc on voit, il y a exclusion. On ne peut pas être à la fois esclave et fils. On est soit esclave, soit fils. En Romains 8, verset 15, que j'ai cité tout à l'heure, je vais le lire. Il est dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, d'adoption filiale, par lequel nous crions Abba Père. C'est très important cette notion d'adoption. Et là, quand on voit le contexte, la connaissance du contexte permet de mieux comprendre la profondeur de certains textes. Alors, dans l'Empire romain, on pouvait avoir plein d'enfants. Mais parmi ces enfants, on en a adopté un. Vous voyez, vous avez plein d'enfants, mais vous adoptez un. Vous pouviez même adopter quelqu'un qui n'est pas votre fils. Et c'est lui qui est votre héritier. Donc quand la parole dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption, ça en sens profond, on est vraiment enfant de Dieu. Fils, fille de Dieu. Et vous voyez que là, il y a exclusion, esclavage et fils-fille. Et je vais terminer toujours dans cette exclusion enfant de Dieu et esclave, un passage très difficile, quand le Seigneur dit aimez vos ennemis, etc., etc. Donc c'est Matthieu 5, verset 43. Alors là, j'aborderai cette partie, le pardon instantané. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner rapidement, en fait? Et là, il faut s'approprier ce que le Seigneur Jésus a fait. Et je l'expérimente beaucoup dans ma vie personnelle. Matthieu 5, au verset 43, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardez ce qui est dit après, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Certaines Bibles disent « afin que vous soyez fils ». Alors là, on aboutit à un paradoxe. Aimé André a beaucoup les paradoxes. Parce qu'on a vu qu'on est fils. Et la Bible nous dit ben, « si vous n'aimez pas vos ennemis, vous n'êtes pas fils ». Donc il y a une sorte de contradiction. Mais les paradoxes bibliques se lèvent quand on s'approprie l'œuvre du Seigneur Jésus, quand on comprend l'œuvre. Alors il y a un livre très... qui m'a beaucoup marqué au début de ma vie chrétienne, écrit par Watchman Nee. C'est un tout petit livre, très facile à lire. Être assis, marcher, tenir ferme. Je l'aurais traduit par « Soyez assis, marchez et tenez ferme ». C'est une étude d'Éphésiens qui montre qu'on est assis dans les lieux célestes. Et il explique qu'en toutes circonstances, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut d'abord être assis. Si vous voulez d'abord, alors André va l'exprimer autrement, il va dire, on est d'abord dans l'être avant le faire. D'autres vont dire, c'est d'abord être conscient de son identité. Donc, si à chaque moment on se considère d'abord assis dans les lieux célestes, ça induit un comportement particulier. Et c'est à la lumière de cela qu'on peut comprendre ceci. La parole dit que nous sommes fils et filles. Donc quand il dit « alors vous serez fils », ça veut dire que, bon, on est déjà assis, hein, on est déjà fils, mais quand on est fils, il y a une conduite logique, cohérente avec cette notion de fils et de fille. Donc, si on ne le fait pas, ben, on n'est pas en accord, on n'a pas un comportement de fils ou de fille. On a un comportement d'esclave. Alors, la question, ça c'est, comment dire, je m'étais toujours posé cette question, mais comment on peut être capable d'aimer son ennemi? Comment on peut être capable de bénir ceux qui nous maudissent? Mais en fait, là, le Seigneur nous donne la solution. Il dit, voilà ma solution. Si vous avez un ennemi, il faut l'aimer. Si quelqu'un vous maudit, la solution que je vous donne, c'est de la bénir. Vous voyez? Alors, ça a été une très grande interrogation pour moi jusqu'à ce que le Seigneur me révèle, j'ai eu cette révélation d'Ésaïe 53 que j'ai abordée tout à l'heure. Le Seigneur a souffert. Parce que qu'est-ce qui fait qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'amertume, j'ai de la rancœur, de l'animosité vis-à-vis de certaines personnes? Ça peut soit simplement parce que la personne m'a méprisé, ou j'ai l'impression que la personne m'a méprisé. J'ai été traité injustement dans une situation donnée, je n'ai pas été considéré, j'ai été humilié, etc., etc. Donc il y a tout un panel de situations. Et donc on voit que, on revient à ce que j'ai traité auparavant, les esclaves, ils ont vécu toutes ces situations-là. Toutes ces situations qui peuvent les amener à haïr, à considérer que les autres sont des ennemis, que les autres nous maudissent, etc., etc. La solution, ça a été une véritable révélation pour moi. Et ce n'est pas une méthode, c'est véritablement s'approprier ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Dernièrement, j'ai quelqu'un de très proche qui a traité de façon inattendue deux personnes qui m'étaient proches. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais pas été en colère, mais j'ai été profondément déçu. Vraiment, j'ai ressenti une profonde déception, vraiment sans colère. Alors je suis allé vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu as vu, je suis vraiment déçu. Il y a une profonde déception en moi. Mais Seigneur, tu as éprouvé de la déception. Tu as des gens très proches qui t'ont déçu. Tu as un disciple que tu as choisi qui t'a déçu. Alors, je me décharge sur toi de cette déception. Vraiment, j'en ai été totalement libéré. Vraiment libéré. Et ce sentiment pour cette personne, c'est rétabli son problème. Donc, je ne suis pas en train de donner une méthode ou une technique. Simplement un fait. Accepter un fait dans les circonstances de notre vie. Et en tous les cas, les seuls moments où pour moi ça ne marche pas, c'est quand j'ai réagi au quart de tour, sans réfléchir, sans patience. Là, j'oublie. Mais quand, c'est pour ça que 1 Corinthiens 13, quand on traite de l'âme, on parle de caractéristique de l'amour. La première caractéristique, c'est la patience. L'amour est patient. C'est la première caractéristique de l'amour. Donc, quand j'ai cette patience de me souvenir de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je dis, Seigneur, alors si je me suis senti humilié, je dis, Seigneur, je me sens humilié dans cette situation. Cette personne m'a humilié. Voilà ce que je ressens. Alors, tu as été humilié. Alors, je te transfère cette humiliation. Et ça me libère. Et ça me donne maintenant la capacité d'aimer cet ennemi. Vous voyez que c'est même pas encore mon ennemi, puisque votre ennemi, c'est quelqu'un qui vous déteste et cherche à vous nuire. Donc, ce n'est même pas jusque-là. Combien de fois dans un couple, quelqu'un vous répond, enfin, quelqu'un, non, votre conjointe vous répond méchamment et vous êtes en colère et la personne veut vous parler. Vous boudez, etc. Je me suis trouvé dans cette situation et alors le Seigneur m'a... Vous savez, il est dit, quand ton ennemi a soif, donnez-lui à boire. S'il a faim, donnez-lui à manger, etc. Alors je me suis trouvé dans cette situation avec ma femme où le Seigneur m'a rappelé, quand ma parole dit, quand votre ennemi a soif, donnez-lui à boire, il a faim, donnez-lui à manger, ben, sa soif en ce moment-ci, sa faim, c'est que tu lui répondes à ça. Extraordinaire. Bon, quand c'est comme ça, on se force quand même. On dit, Seigneur, très bien, bon, mais donne-moi la force. Et je réponds. Vous voyez? Seigneur m'a montré que donner à mon... C'est même pas mon ennemi. Elle forme une même chair que moi. Mais la réaction charnelle veut que je boude, que je ne réponde pas. Mais le Seigneur me dit, non, sa fin, c'est que tu lui répondes. On obéit. Et donc, quand on le fait, on se sent libéré. Et donc, voilà ce qui permet, vous voyez, que quand on a cette présence d'esprit de transférer au Seigneur la souffrance, l'humiliation, la vexation, on est libéré pour pardonner à la personne. Combien de fois, qu'on soit dans les films, etc., quelqu'un s'attend à ce que vous réagissiez, qu'on réagisse mal et que la personne réagit comme le Seigneur demande, ça déroute l'autre, ça déroute l'ennemi, il ne comprend pas. Et c'est là l'une des particularités du christianisme, c'est une puissance redoutable, quand on s'appuie sur Christ. Sans s'appuyer sur Christ, si on ne s'approprie pas ce que le Seigneur a fait, notre vie chrétienne, enfin, on ne diffère pas des autres. Et ça fait que même dans l'Église, vous voyez, je ne veux pas venir parce que je ne veux plus venir, je veux voir telle personne a manqué de respect, telle personne m'a méprisé, le pasteur a dit un mot déplacé qui ne me plaît, etc. Ainsi de suite. Donc il suffit simplement, ce n'est pas facile, mais bon, on s'en remet au Seigneur, on lui demande la force de pardonner. Et donc, dans la suite des passages, de ce qui doit être fait, donc venir se décharger sur le Seigneur, s'approprier, revendiquer cette libération de la vaine manière de vivre de nos ancêtres, ou de nos pères, ou de nos ascendants, et ensuite revendiquer notre identité, notre nouvelle créature, et oublier les choses anciennes, mais il y a aussi le pardon, évidemment. Mais maintenant, selon les cas, il va falloir d'abord pardonner, et d'autres cas où il va falloir, donc on n'est pas légaliste. Mais quand c'est très profond, on est obligé, n'est-ce pas, de faire de la guérison intérieure, dans le style de ce qu'on a vu avec Elijah Hobbs. Et si on ne pardonne pas, je termine là, par Éphésiens chapitre 4. C'est ce fameux passage où il y a eu un débat, au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Alors, les textes originaux disent, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Donc, il y a les deux en même temps. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Alors là, dans le texte, c'est que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Et, alors, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Là, dans le texte original, c'est ne donnez pas place au diable. Là, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas, en fait, j'ai laissé de la place au diable. Donc, en réalité, j'ai peut-être quitté l'église parce que, bon, le pasteur, j'en ai marre, etc. Mais en fait, je n'ai pas conscience que j'ai fait place au diable dans ma vie. Je vais louer le Seigneur, etc. Mais je suis en train de laisser place. Et quand on laisse place, lui, il ne se contente pas, la nature a horreur du vide. Il ne se contente pas de la petite place que tu lui as laissée. Mais il veut en prendre. Petit à petit, il en prend. Et dans ta vie quotidienne, tu perds ta place de fils et de fille, tu deviens un esclave. Je vous propose de vous lever. Je dis une prière. Je vous laisse une minute. C'est de voir si vous avez des situations dans lesquelles, si vous vous sentez concerné par une de ces situations, on va élever cette situation. On va l'élever au Seigneur. Pendant que je vais prier, vous regarderez au Seigneur ce qu'il a fait. Seigneur de gloire, merci pour ta majesté. Merci pour ta magnificence. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Tu es extraordinaire. Merci pour de ce que tu m'as libéré des situations d'esclavage dans lesquelles j'ai été mise, des situations d'esclavage dans lesquelles je me suis moi-même mis. Tu es extraordinaire. Tu es mort il y a 2000 ans, mais comme on l'a chanté tout à l'heure, tu es encore vivant. Ton sang a coulé il y a 2000 ans, mais il est encore en action aujourd'hui. Et Seigneur, tu as versé ton sang pour ton sang efface nos péchés. J'invoque ton sang afin qu'il purifie nos consciences, à nous qui sommes là et celles de ceux qui nous écoutent. J'implore ta grande miséricorde et ta grande compassion, Seigneur. Et peut-être pas tous, mais ceux qui sont là et ceux qui écoutent te présentent les situations difficiles qu'ils vivent et qu'ils n'arrivent pas à gérer. J'implore ta grâce afin que tu les aides à s'approprier ce que tu as fait pour eux, Seigneur, et que j'ai présenté, que tu m'as permis de présenter. Seigneur, libère ces personnes afin qu'elles aient un comportement digne de la vocation à laquelle tu les as appelées, qu'elles aient un comportement de fille et de fils et qu'elles soient complètement libérées de l'esclavage. Oui, Seigneur, libère. Libère pour ta gloire. Libère ceux qui ont l'impression d'avoir été faits esclaves. Libère ceux qui se sont mis dans l'esclavage. Libère ceux qui oublient, Seigneur, leur situation de fils et de fille et qui se mettent dans une situation d'esclavage. Je sais que le diable, dans ses manœuvres, essaie toujours de nous faire oublier ce que nous sommes des fils et des filles, et essaie de nous réduire en esclavage. Seigneur, je proclame ta libération sur chacun de ceux qui sont présents ici et de ceux qui écoutent, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.